akhirnya sama.
Lalu? Beklediğin yeterli değil mi? Şöyle bir sen film olsun şimdi. Sen film olsun şimdi. Sen film On poursuit l'interrogatoire principal de M. Duval.
Exact.
Alors, M. Duval, tu m'aimes seulement hier. Vous continuez à dire la vérité.
Monsieur Duval, hier, nous en étions rendus à l'automne 99. Vous aviez eu une rencontre au mois d'octobre avec le représentant de la Chine, toujours relativement au sujet des rénovations. Pourriez-vous nous relater l'étape suivante, c'est-à-dire quelle a été votre implication suite à la rencontre de mi-octobre 99? Au niveau de la direction, au niveau de l'avancement du projet de rénovation qui a débuté en mai 2000.
Dans ce projet-là, en fait, mon implication a été plutôt vers la fin du mois de janvier, où est-ce que en janvier, on avait dans le fond fait une chambre modèle. Et l'implication était indirecte de ma part, dans le sens que c'est la direction des usages qui était mandatée, si vous voulez, pour convoquer les représentants d'étage ainsi que tous les résidents à venir visiter la chambre modèle.
Vous êtes tenu au courant de ça? C'était dans votre connaissance?
Oui, j'étais au courant. Je l'avais d'ailleurs visité dans les premiers.
Et votre interlocutrice, c'était toujours Mme McCain?
C'est bien ça.
Est-ce que vous teniez au courant, c'est-à-dire là, votre mandataire direct, c'était Mme McKay, la direction de l'université elle-même, est-ce que vous la teniez au courant également?
Oui, la direction de l'université était au courant au fur et à mesure des développements. D'autant plus qu'on avait eu une rencontre autour du 18 janvier au bureau de M. Jean Gravel. Il était présent à cette rencontre-là, moi-même, Mme McKay, le président de l'ERCOM, M. Gaulin et M. Jean Gravel.
Et de quoi était-il question cette rencontre aujourd'hui?
Spécifiquement, en fait, de la grosse appréhension qu'avait la direction de l'ERCOM, à savoir que des cuisines soient installées au basilière des bâtiments. Et lors de cette rencontre-là, en fin de compte, l'entente a été prise de la façon suivante. On a donné une forme de garantie à M. Gaulin que du côté de la résidence de Tourette et Jour-Ouest, au 7e étage, que nous ne toucherions pas au salon étudiant avant au moins 2 ans, qui était en fin de compte le parachèvement des travaux. Donc, remettre à une date ultérieure le projet du côté des cuisines centrales.
Là, vous avez mentionné que la fin janvier, vous avez repris votre implication directement dans le projet de rénovation. C'est à quel propos?
En fait, c'est que je voulais m'assurer que du côté de la chambre modèle, que tous les étudiants soient convoqués, et de deux façons. La première façon, ça a été un communiqué écrit qui est envoyé à tous les étudiants résidents, et de toutes les tours, si vous voulez, parce que dans le fond, la chambre modèle est déployée à la tour ouest. Et quand on parle d'une chambre modèle, on parle aussi d'un corridor modèle, parce qu'on avait fait repeindre tout le corridor et on l'avait mis dans les tours où est-ce que...
Du 14e étage, on dit, repeindre le corridor,
c'est... Oui, c'est ça. Donc, une chambre au 14e et tout le corridor, pour qu'on ait vraiment une vue d'ensemble que ça nous donne pour l'ensemble des rénovations intérieures.
Vous parlez du communiqué, je vous présente le document qui a été coté sous P23, est-ce que vous s'agit du communiqué en question?
C'est bien ce communiqué-là.
Et quelle était la deuxième façon pour laquelle vous vouliez connaître la réaction finalement des futurs utilisateurs des chambres?
J'ai incité personnellement pour que tous les étudiants résidents, au-delà du communiqué écrit, qui reçoivent dans leur boîte vocale une invitation spéciale, et autant l'invitation, autant le communiqué faisait état qu'il y aurait une personne en fait qui serait sur place lors des visites, pour prendre les commentaires des résidents sur le mobilier, sur la disposition, sur les chambres, le matériel qui est utilisé et tout.
Est-ce qu'il y a une personne qui a effectivement été mandatée à ce propos?
Oui, il y a une personne qui a été mandatée à ce propos.
Et ça a duré, c'était à quelle période que ça s'est fait, cette visite?
Ça s'est fait en début de février. On a eu une journée porte ouverte qui était, je pense, le 31 janvier. Une journée porte ouverte, c'est en fait l'université qui ouvre les portes à des nouveaux étudiants. Et les nouveaux étudiants étaient appelés, dans le fond, à visiter les résidences s'ils voulaient le faire. Et c'était cette chambre-là, si vous voulez, qu'on faisait visiter.
Quand ceux qui étaient déjà en place?
Quand ceux qui étaient déjà en place, ça a été au début de février, à mon sens. Je n'ai pas la date exacte, là, mais 1 ou 2 février, 29 janvier, je ne pourrais pas dire la date exacte.
La personne qui était mandatée, elle, c'était quoi son... Elle recueillait les commentaires directement qui lui étaient adressés?
Elle recueillait les commentaires, mais elle allait un peu plus loin. Si les personnes n'émettaient pas de commentaires, elle avait un certain nombre de questions qu'elle posait pour s'enquérir, en fin de compte, du visiteur.
C'est comment ces visites du début février s'est-il passé relativement le projet en était rendu à quelle étape?
Est-ce que vous faites référence à la chambre modèle ou vous faites référence à la poursuite en fin de compte du projet?
À la poursuite du projet globalement, au niveau de la chambre modèle.
À la poursuite du projet, bien en fait, il y a eu une firme qui s'appelle la gestion Claude Labelle qui a été mandatée en fin de compte pour s'occuper du contrat de gestion des rénovations. Il y a eu plusieurs rencontres à ce sujet-là parce qu'en fait, nous, on voulait s'assurer qu'on trouve la formule qui amène le coût le plus bas possible pour l'ensemble des travaux. Et il y avait un certain nombre de modèles, en fin de compte, dans la province de Québec qui étaient utilisés. Nous, on souhaitait que l'université change un peu les habitudes des coutumes dans ce sens-là.
Quand vous dites qu'il y a plusieurs modèles qui étaient utilisés, vous faites référence à quoi, là, à travers la province?
En travers de la province, c'est que dans le fond, il y a des rénovations qui peuvent être faites, ce qu'on appelle en régie, donc par des employés de l'université. Il y a des rénovations qui peuvent être chapeautées par la direction des immeubles et où est-ce que la direction des immeubles sollicite des propositions directement des contracteurs. Ou bien il y a la formule qui semblait être la formule la plus avantageuse pour amoindrir les coûts, de donner en fait à une firme de gestion le contrat de faire sortir, si vous voulez, les propositions des architectes et d'y aller dans une forme à forfait. À forfait, ce que ça avait comme implication, en fin de compte, c'est que la firme qui était mandatée pour s'occuper de la gestion du projet, elle était à un pourcentage, si vous voulez, du projet, et elle devait s'assurer que les propositions étaient lancées de sorte que les contracteurs qui étaient appelés à soumissionner fonctionnait pour l'ensemble du projet, donc si on était en deux phases, parce que là, ça commençait à être très clair qu'on s'en allait vers deux phases. On avait,
c'est quoi pour vous deux phases?
Deux phases, c'est deux années en fin de compte de construction, parce qu'on a, dans le fond, on a toujours l'année académique, on ne peut pas faire de rénovation durant l'année académique, donc il nous reste la période d'été. Donc dans la période d'été, pour faire l'ensemble des travaux, ce que nous mentionnait cette firme-là, c'est que les coûts les moindres seraient si on va le faire sur deux ans. Donc, quand je dis deux étapes, c'est deux étés de travaux de rénovation.
Ça, les travaux, c'est l'ensemble des résidences, c'est
bien. C'est l'ensemble des résidences, effectivement.
Okay. Alors, vous aviez mentionné qu'il y avait trois possibilités de relativement rénovation. Je dois comprendre dans l'enquête révèle que c'est la troisième option qui a été privilégiée, finalement, le contrat à forfait avec la firme de retenue de Claude Abel.
Exactement.
Ça a été décidé à quel moment, ça, cette prise en charge, finalement, par la firme d'Abel?
Labelle a été impliqué dans le dossier, à mon sens, c'est fin 99 ou début de 2000.
Est-ce que c'est vous qui avez été impliqué dans les communications initiales avec la firme Labelle?
Non.
Qui est en charge des rencontres préliminaires?
C'était M. Jean Gravel, qui est le directeur adjoint, avec le directeur de la direction des immeubles, M. Russell Adams.
Au courant du mois de janvier, la femme Claude Labelle débute son mandat.
Exactement.
Alors, quelle était la nature précise du mandat qui était confié à Claude Labelle? C'est-à-dire la faisabilité du projet?
La faisabilité du projet à partir, si vous voulez, des rapports qui avaient été déposés par la firme d'architectes sur la vétusté physique et le réaménagement fonctionnel.
C'est le rapport d'architecte qui était déjà disponible, ça avait été fait quand, ça?
Les rapports d'architecte, vétusté physique avait été fait fin 98 et réaménagement fonctionnel en début 99.
Pourquoi pas avoir mandaté la firme Claude Labelle avant le mois de janvier ou le fin décembre, janvier, début?
C'est que la direction a regardé la faisabilité.
La direction, on parle de qui?
Quand je parle de la direction de l'université. La direction de l'université souhaitait voir comment on pouvait, dans le fond, prendre ce projet-là et de l'amener à réalisation dans des formules qui n'avaient pas été présentes par le passé et qui étaient quand même, qu'il fallait absolument qu'ils soient acceptables dans la province de Québec. Parce que, dans le fond, on parle, si vous voulez, de travaux qui sont lancés publics.
Quand vous dites que ce n'est pas des travaux qui avaient été faits avant, on ne parle pas d'université, on parle à travers la province de Québec.
Oui, à travers la province de Québec.
Alors, quel a été le rapport qui vous a été... C'est-à-dire, la firme Claude Labelle a été mandatée en janvier, procède à ses analyses, et quelle est la suite? À quel moment vous faites le rapport?
En fait... la firme Claude Labelle fait les premiers rapports sur la détermination des appels d'offres, comment est-ce que ça va être fait, entre autres. Il fallait, en fin de compte, trouver un architecte qui était pour s'occuper de la gestion du projet. Et dans cette avenue-là, c'est sûr que la firme d'architectes qui avait déjà fait des rapports était pour être sollicité pour prendre en charge ce projet-là, mais eux n'étaient pas intéressés, ils se sont désistés. Et c'est une autre firme qui a eu, si vous voulez, ce contrat-là. Et dans le contrat, là, on a réimpliqué beaucoup la direction des résidences et la direction du service auxiliaire pour regarder, dans le fond, les avenues potentielles à partir déjà des rapports fournis. Quand je parle de rapports fournis, là, c'est nécessairement sur la portée des travaux.
Ça, c'est à quel moment, là, finalement, que la firme Claude Labelle doit juste bien préciser la séquence. La firme Labelle, vous connaissiez à ce moment-là, en janvier, l'enveloppe budgétaire que vous étiez octroyée.
C'est ça, pour l'enveloppe de 12 millions.
Bon. À partir du moment où vous avez fait connaître votre enveloppe budgétaire, quelles ont été les constatations de la firme Claude Labelle? Qu'est-ce qu'on vous a rapporté à ce sujet-là?
Ben, dans un premier temps, pour eux, c'était impossible de faire l'ensemble des travaux qu'on préconisait pour une enveloppe de 12 millions.
Vous l'avez su quand?
On l'a su assez tôt dans le processus, en fait. Fin janvier ou début février.
Quelle a été votre réaction suite à cette constat ou ce rapport qu'on vous faisait?
Ben, nous, on souhaitait nécessairement que la firme d'architectes qui avait été engagée puisse nous faire un rapport, en fin de compte, sur quelle était la portée des travaux dans un objectif de 12 millions. Qu'est-ce qui était réalisable, dans le fond, à l'intérieur de 12 millions. Et on a regardé avec cette firme-là pour que, dans le fond, chaque dollar investi soit investi avec le meilleur rendement, compte tenu de la diversité, dans le fond, des interventions à faire sur l'ensemble des bâtiments.
Et vous regardez vos options, à ce moment-là?
On regardé les options. C'est sûr qu'il y avait une option qui était incontournable, c'était nécessairement la coquille extérieure des bâtiments, qui, elle, de point de vue de sécurité, nous obligeait à enclencher pour à faire, pas juste à enclencher, mais à faire le tout dans l'été 2000.
Au niveau de des rénovations intérieures, parce qu'on sait qu'il y en a eu des travaux à l'intérieur de la tour ouest, entre autres, quelles étaient vos options? Là, je parle toujours, on se place au mois de février.
Au mois de février, en fait, on était toujours à penser que la portée des travaux aurait comme première séquence la tour Thérèse Casgrain et la résidence 2442. Alors que quand les architectes se sont penchés, sont allés faire des évaluations pour l'ensemble des bâtiments, ont travaillé sur l'ensemble des bâtiments, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ce qui s'est avéré, c'est qu'à l'intérieur, du côté de la tour Thérèse Casgrain, il était inabordable, en fin de compte, d'entreprendre les rénovations intérieures, compte tenu du peu, quand je dis du peu de nombre de résidents, là. C'est une tour qui a 19 étages et qui a, en fin de compte, l'équivalent de 176 étudiants résidents. Donc, le coût de rénovation intérieure était tellement inabordable que ce qui avait été projeté faire des cuisines à tous les deux étages a amené, dans le fond, une qualification qui aurait été tellement élevée qu'elle aurait été difficile à vendre. Et dans cette...
On parle du loyer, le tarif.
On parle du loyer,
le loyer pour les résidents futurs de la Thérèse.
C'est ça.
Donc, vous avez privilégié, finalement, ce que la preuve révèle, la rénovation de la tour ouest.
Exactement. C'est que, en fait, du côté de Thérèse Casgrain et de l'annexe, ça s'avérait vraiment praticable. Tandis que du côté de la tour est ou la tour ouest, là, ça aurait pu être autant la tour est que la tour ouest qui soit préconisée. C'était la même, c'était l'équivalent en termes de travaux.
Finalement, il a été décidé que la tour Est allait être faite en mai 2001.
Que la tour Est serait faite exactement en 2001.
Là, on se place, là, vous êtes toujours en février-mars. La direction vous donne à quel moment, à quel moment se prend finalement cette décision définitive, le fait que ce serait la tour Ouest qui aurait les travaux intérieurs. La coquille, c'est pour tout le monde, là, mais au niveau de la tour Ouest, les travaux intérieurs.
En février, on sait à ce moment-là, en fait, qu'on s'en va à l'appel d'offres pour la rénovation et que dans cette avenue-là, ce qui est préconisé, c'est la résidence tour ouest en termes d'intérieur et que dans les lots, parce qu'eux avaient divisé ça par lot. Le lot des coquilles extérieures, ça, à ce moment-là, on savait qu'on s'en allait sur l'ensemble. Alors que dans le cas des rénovations...
C'est un contrat spécifique, c'est ça?
Un contrat spécifique pour, en fin de compte, les coquilles. Un autre lot qui se trouvait à être et un communiqué qu'on a émis, qui était de mémoire, le 22 ou 24 mars, là, en fin d'état. Parce qu'à ce moment-là, entre fin février et autour du 19 mars, on a... C'est exactement le communiqué. Qui parle de la portée des travaux, parce que la portée des travaux, à ce moment-là, est connue au 22 mars. Nous, on l'a appris autour du 19, tant qu'à la portée des travaux. Et que ça, dans l'enveloppe budgétaire qu'on avait dévouée, on entrait à l'intérieur.
Donc, le communiqué du 22 mars, on était 5 le premier. Là. Vous l'avez appris, donc, 2-3 jours préalablement?
Autour de 2-3 jours, oui.
Est-ce que la note de service a été rédigée à votre demande par vos services?
La note de service a été rédigée en accord avec la direction des résidences, parce qu'en fin de compte, quand je parle si vous voulez, de la direction des services auxiliaires, les rencontres avec autant la firme de gestion Claude Labelle, autant avec la firme d'architectes qui avait été retenue, la direction des résidences représentée par Mme Mécaille est toujours présente. Et c'est ensemble, en fait, qu'on a décidé de faire ce document-là qui a été préparé par la direction des résidences.
Est-ce que qui est en charge de la préparation des documents d'appel d'offres pour les trois contrats là, mentionnés?
C'est la firme de gestion Claude Labelle.
Ah, c'est eux qui sont en charge de trouver des soumissionnaires?
Exactement. Toujours chapeauté par contre par la direction des immeubles. Ils se rapportent à la direction des immeubles comme instance à l'université.
Les soumissions sont rentrées donc à quel moment?
à mon sens, on parle toujours de soumission budget. Je pense qu'il devrait être rentré pour autour de cette date-là, parce que quand on parle de la portée des travaux, on s'en va vers des soumissions qui sont plus budget, là, mais vraiment des soumissions réelles qui devraient sortir. Je pense que les soumissionnaires avaient quelque chose comme un mois ou cinq semaines pour les sortir.
Et quelles étaient au niveau de la soumission, vous dites que la direction des immeubles était impliquée avec la gestion Claude Labelle pour justement la préparation des documents d'appel d'offres. Quelles étaient les exigences spécifiques de l'université relativement soumissionnaire en ville? C'était quoi vos exigences de base?
Ben, tant qu'au soumissionnaire, moi, je n'ai pas cette connaissance-là, parce que c'est plus avec la direction des immeubles, en fin de compte, que les exigences des soumissionnaires étaient faites. Nous, ce qu'on avait du côté des services auxiliaires et des résidences, c'était au niveau, dans le fond, du cheminement des travaux, comment est-ce que ça va être abordé. Nous, ce qu'on préconisait, en fait, c'était de la rénovation à trois étages par trois étages. Alors que, après avoir rencontré la firme de gestion Claude Labelle, on a compris que pour avoir les meilleurs coûts possibles, eux auraient souhaité largement avoir, dans le fond, un immeuble au complet de vidé pour tout le temps de la rénovation. Alors que nous, d'après les expériences passées, le nombre d'étudiants résidents qui demeuraient dans les résidences, en ajout la partie, si vous voulez, des temps français d'été, et les ententes de contrat qu'on avait déjà de prise, on considérait que c'était irréalisable de vider un pavillon au complet. Donc, il y a eu une forme de négociation, si vous voulez, sur ça. À l'effet qu'on a fait, nous, comme on avait parlé depuis le tout début, trois étages à la fois.
Est-ce que les représentants, donc les locataires résidents, étaient tenus au courant de cette évolution de votre projet au mois de février et mars?
Ben, en fait, dès le mois d'octobre, aux premières rencontres, au mois d'octobre, on a déjà parlé, en fin de compte, des travaux de rénovation, dans le sens comment est-ce que ça pourrait être abordé. Et dans notre esprit, à ce moment-là, c'était trois étages par trois étages. Donc, ça avait déjà été abordé en octobre.
C'est en l'an 2000, là, maintenant. Rendu à une phase plus concrète de réalisation.
Ben, l'an 2000, nécessairement, on est au 22 mars, et on a une rencontre qu'on sollicite le 24 mars. Avec les représentants de l'ERCOM. Donc,
vous l'avez sollicité?
Je pense que oui, parce qu'en fin de compte, on avait ce document-là qu'on faisait parvenir et c'était toujours la même stratégie.
Ce document-là, c'est parce qu'au niveau de l'enregistrement, ça paraît pour parler du document du 22 mars.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Mais c'est que depuis le tout début, ce qu'on avait dit à l'ERCOM, écoutez, c'est qu'à chaque fois qu'on va sortir un communiqué, on va vous rencontrer, on va discuter du communiqué et simultanément, on va le faire partir du côté des étudiants résidents. Donc, le 22 n'a pas échappé à cette forme-là. On les a rencontrés avec le député.
Donc, cette rencontre s'est a eu lieu à quelle date? Vous avez mentionné le 24.
Le 24.
Le 4 mars. Qui était présent à la rencontre?
M. Gaulin, comme président de l'ERCOM, et sensiblement, il le même nombre de personnes, il y avait 5 ou 6 personnes avec lui, qui pouvaient être, en fin de compte, des gens qui sont sur son conseil d'administration.
Et vous étiez présent avec quel?
Avec Clément Mécaille et Elisabeth.
Donc, sensiblement les mêmes interlocuteurs qu'au cours de la rencontre d'octobre précédent.
Exactement.
Alors, quel a été, lors de cette rencontre-là, les sujets abordés, j'imagine, c'est les travaux qui s'en venaient.
Nécessairement.
Autre chose aussi. Qu'est-ce que tu as
Okay. Nécessairement la portée des travaux, parce que là c'était clair, et le communiqué faisait ça pas juste pour l'année 2000, il faisait ça aussi pour l'année 2001. On voit la pièce qui est avec. Lors de cette rencontre-là, en fin de compte, description des portées des travaux, projet de rénovation en deux phases, c'est très clair que c'est deux phases, c'est pas trois phases, alors qu'on avait annoncé
chuchotement, ça vient interférer dans les oreilles, là, c'est plus dur de suivre.
Donc,
on a la réunion du 24.
C'est ça. Il est clair à ce moment-là que c'est un projet en deux phases. Il y a eu aussi des discussions sur la fixation des loyers. On avait dans
c'est encore à vous, un des sujets de discussion, la fixation des loyers.
C'est encore un sujet de discussion parce que aller jusqu'à ce moment-là, en fin de compte, ce qu'on avait parlé, c'était d'une augmentation de loyers qui pouvait être globale, alors que. Ici, là, ça paraît très clair qu'il y a une différenciation, si vous voulez, sur les bâtiments. J'en avais parlé dans une rencontre ultérieure, mais ce qu'on nous apportait comme information, c'est que ont tenté de faire en sorte que la différenciation de loyer versus la résidence habitée, qu'elle ne soit pas trop forte. Et quand je dis pas trop forte, entre autres, Thérèse Cadrin est un bon exemple. En fait, les rénovations de Thérèse Cadrin étaient juste sur la coquille extérieure. Donc, même si le nombre d'étudiants résidents de cette tour-là est moins élevé, ça faisait en sorte que l'augmentation du loyer serait moins. Par contre, il n'y aurait que les coquilles extérieures de fait du côté de Thérèse Cadrin.
En l'an 2000. Alors, outre ce sujet-là, est-ce qu'il y a des questions également, donc, les travaux à la tour ouest, on voit que ça, c'est pas uniquement des travaux extérieurs qui étaient discutés, là, qui étaient envisagés et à réaliser, il y avait aussi des travaux de rénovation intérieure.
Oui, on a passé en revue tous les éléments qui apparaissent ici. Ce qui est ressorti...
Les éléments, c'est la description des travaux?
Description des travaux. Ici, si on parle de la tour ouest, rénovation de l'ensemble des studios, ajout de salle de bain à chaque étage, réparation de revêtements extérieurs, structure de béton.
Donc ça, ça a été discuté, pour, quand vous dites point par point, pour Thérèse Cadrin, 24-42 et suivant. Vous avez discuté de l'ampleur des travaux pour chacun des immeubles faisant partie des résidences.
Exactement.
Est-ce que vous avez parlé également de l'aspect déménagement? On voit qu'il y a un sujet déménagement et logistique. Est-ce que ça avait eu, comment dirais-je, été un des sujets à l'agenda?
Ça a été aussi le sujet dans le sens que ce qui était mentionné ici, c'est au cours des prochaines semaines, on s'est engagé dans le fond. Il faudra revenir à ceux et celles qui demeureront en résidence durant la période estivale, toute l'information nécessaire relative à la logistique. Parce que nous, à ce moment-là, on n'a pas rencontré, en fin de compte, les contracteurs là, qui vont faire ces travaux-là. C'est sûr que dans le rappel d'offres...
C'est au mois de mars, là, c'était pas rencontré.
Oui. Je ne l'ai pas rencontré. C'est sûr que dans leur rappel d'offres, dans le fond, ce qui était préconisé par la firme Gestion Claude Dabel, c'était une livraison, en fin de compte, trois étages par trois étages, et qui amenait un calendrier qui était pour nous être soumis, mais qui était pour être un calendrier très serré de livrable, avec des risques. Parce qu'en fin de compte, comme on nous disait, écoute, on peut difficilement s'engager sur le fait qu'il y ait des retards ou s'il n'y a pas de retard. Et si on met des pénalités du côté des retards sur les contracteurs, bien nécessairement, ça va faire en sorte que ça va augmenter le coût. Donc, vous n'avez pas une garantie là, blindée à toute épreuve que lors de la séquence des livrables, qu'il n'y ait pas des retards.
Et la question des échéanciers qui apparaît quand même au point de la phase 1 échéance, là, parce que c'est ce qui concerne phase 1, c'est l'an 2000. Est-ce que les échéanciers ont été discutés? On voit ici les rénovations pour chacun des studios tour ouest. Les dates qui apparaissent, ça a été discuté là.
Ah oui, ça c'était très clair, en fin de compte, que les travaux débutaient le 1er mai et que dans le cas de la rénovation des studios, on parle ici là, du 8 mai au 15 mai. Ça c'était très clair.
Quelle a été la position de l'ARP relativement à ces points envisagés, c'est-à-dire chaque, dans un premier temps, la description des travaux? Quelle a été la réponse à ça? Vous expliquez finalement l'avis du 22, mais est-ce qu'il y a eu une réaction?
Oui, il y a eu une réaction. Deux points ressortaient de façon importante, en fin de compte, c'était qu'il n'était pas d'accord avec la standardisation. Ce qu'on cherchait à faire, en fait, après les questions qui nous étaient posées, c'est est-ce que vous allez mettre ça de la même couleur du côté de la résidence ouest versus un autre immeuble. On a parlé de standardisation au point de vue des couleurs, standardisation au point de vue de l'ameublement. On a parlé de standardisation, en fin de compte, des équipements, des portes et tout. Et
ça... Ça en venait à la tour ouest,
finalement. Ça en venait à la tour ouest, mais ça en venait aussi du côté du 5e et 6e étage, parce que du côté de la résidence 24-42, simultanément, on faisait les travaux, et ce document-là en parlait. Et eux ne comprenaient pas qu'on ait comme avenue de standardiser. On avait beau expliquer, en fin de compte, qu'on souhaitait minimiser les coûts pour ne pas avoir à garder des tuiles de 18 sortes différentes, pour pas garder de la quincaillerie de 18 modèles différents. Et ça, ça les évitait. Il y avait aussi une autre partie qui les évitait, c'était le fait que dans le corridor modèle qu'on avait mis de l'avant en janvier, qu'on préconisait, dans le fond, une approche où est-ce qu'il n'y aurait plus de tapis, ça serait des tuiles. Ça, c'était un autre point qui était très irritant pour eux. Ils nous disaient que dans le cas des résidences, on ne comprenait pas que eux, les nuits, c'était plus bruyant si les gens se déplaçaient dans le corridor. Et on nous expliquait que, dans le fond, le corridor qui avait été fait comme modèle, il manquait un élément qui était important au niveau du bruit que ça pouvait occasionner. C'était des bas de porte qui étaient, dans le fond, à s'ajuster. Dès que tu fermes la porte, c'est un bas de porte tombant qui vient fermer. Donc, ça limite la luminosité, dans le fond, parce qu'il y avait un problème d'éclairage puis il y avait un problème de bruit. Donc, l'éclairage, nécessairement, de sécurité, je parle toujours de l'éclairage du corridor, avec ça, ça enlève cet effet-là et ça diminue le bruit.
Alors ça, c'était des irritants. Là. On vous a mentionné deux irritants. Est-ce qu'il y avait... Donc, la standardisation, la question également de l'enlèvement du tapis pour le remplacement par les tuiles. Est-ce qu'il y avait d'autres...
Il y avait d'autres réactions, mais nécessairement du côté des salles de bain, étant encore à ne pas comprendre pourquoi, en fin de compte, on doublait la capacité des salles de bain.
La position de l'ARCOM, c'était quoi relativement aux salles de bain?
L'ARCOM, en fin de compte, il considérait que si on prenait l'avenue de rénover les salles de bain, pas tellement de rénover, mais d'ajouter d'autres salles de bain, c'était juste parce que, dans le fond, on voulait satisfaire la partie touristique. C'était pas le seul élément, j'en ai témoigné hier, hein. C'était loin d'être le seul élément. Il y avait aussi, dans le cas de l'humanisant, j'en ai parlé, le fait là, qu'on avait des problèmes de voyeurisme et qu'on avait, dans le fond, des cultures différentes qui amenaient que c'était pas acceptable d'avoir des salles de bain mixtes.
La position de l'ARCO, je vous comprends bien, c'était on ne touchait pas les salles de bain.
Il était d'accord à rénover les salles de bain, mais dans la même forme, pour d'en ajouter.
Ah, puis de conserver le caractère mixte.
C'est ça.
Au niveau de l'échéancier, est-ce qu'il y a eu des représentations qui ont été soumises?
L'échéancier, il y a eu des discussions sur le fait du 8 mai, parce que quand on parle de la rénovation intérieure, l'implication du 8 mai, eux, auraient souhaité que ce soit le 15 mai. Mais on avait un calendrier qui nous était, jusqu'à un certain point, présenté par la firme de gestion Claude Labelle, qui nous amenait, dans le fond, à avoir un risque de déborder. Parce que, de toute évidence, c'était des livrables assez serrés. Et tout, si on partait une semaine plus tard, bien, nécessairement, ça débordait d'une semaine. Et nous, ce qu'on souhaitait, de tout cœur, autant du côté de la direction des résidences que de la direction des services auxiliaires, c'est qu'on soit en mesure de livrer, dans le fond, nos chambres, toutes prêtes pour autour du 20 août.
La direction est venue sur place également, constater l'état des lieux. Quand on parle de la direction, c'est M. Gravel, M. Trahan, M. Lafont.
Oui, je regarde de M. Gravel, M. Trahan, et d'ailleurs M. Lacroix aussi, le recteur, est venu dans l'automne 99 visiter les résidences parce qu'il voulait voir, à partir du moment où on déposait un projet de 12 millions, il voulait voir quel était l'état des résidences. Il nous visitait, en fin de compte, les chambres tour est, tour ouest, Thérèse-Casgrain et du côté de 24-42. On a fait visiter des chambres dans chacun des immeubles. On lui a fait visiter aussi les salles de bain qu'on préconisait les changements. On lui a fait visiter les incommeux sur certains étages. Et la même direction et en ajout, le secrétaire général de l'université, M. L'Espérance, sont venus lors de la construction cet été pour faire une visite des lieux.
La haute direction est retournée sur place.
La haute direction est retournée sur place cet été. Monsieur Lacroix est venu.
Alors, au niveau des représentations, on vous disait finalement le 15 plutôt que le 8 mai. Est-ce qu'il y a eu d'autres représentations relativement à l'échéancier? Est-ce qu'on vous a fait d'autres...
Les autres représentations, en fin de compte, c'est que ça s'est produit un peu différemment. C'est que quand on a déposé le document suivant, qui se trouve être de mémoire le 19 avril.
Faites référence au document qui est le 5-19 avril.
Exactement.
C'est les déménagements prévus, oui.
C'est ça. Donc, dans le document 19 avril, ici, il était mis en clair, en fin de compte, les déménagements par étage. Ici, on parle de la tour ouest, là, 8e, 9e, 10e, 1er mai, 2 mai, 11, 12, 13. Et la représentation qui a été faite de l'ERCOM, en fin de compte, a été faite plutôt à un niveau supérieur. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées, dans un premier temps, au vice-recteur.
Comme vous dites, les représentations, c'est après le 19 avril.
Après le 19 avril.
D'accord. Donc, alors, entre le 24 mars et le 19 avril, est-ce qu'il y a eu des... Parce que non, il y avait une rencontre où la question était citée au 24. Il y a l'avis du 19 avril.
Est-ce qu'il y a eu d'autres réunions, d'autres où vous étiez évidemment à votre connaissance impliqué? Pas que moi, j'ai été impliqué directement.
Et la rencontre, suite à l'avis du 19 avril, est-ce que vous avez été impliqué directement? Vous avez mentionné que les avis étaient au niveau. La Cour communiquait à ce moment-là avec M. Gravel et M. Trahan, la propre Rivelle. Est-ce que vous avez été impliqué suite au 19 avril avec les représentants de la Cour ou d'autres locataires, d'autres demandeurs?
OK. Moi, j'ai été impliqué avec une rencontre en privé au bureau de Mme Mécaille avec M. Grégoire qui venait juste d'être nommé. Nouveau président de l'ERCO. Ça doit être autour, je dis bien ça doit être, là, 26, 27, 28 avril, là, c'est autour de ça. Tout ce que je sais, c'était possiblement la première journée, je pense, qui était nommé président.
Je vais voir ici un document. C'est un document qu'on vous a transmis.
Il m'a été transmis par la direction des résidences.
Pour vous qui avez préparé ce document-là.
C'est pas moi qui ai préparé ce document-là.
Alors, c'est à l'onglet 14 de la pièce P1. Est-ce que vous avez donné une suite à ce document-là?
Oui, en fait, Mme Mécaille m'a rencontré avec ce document-là. C'était une proposition de l'ERCOM, en fin de compte, pour les éléments de monde ici. Il n'est pas exigé que les résidents de la Tour Ouest quittent les femmes avant le 9 mai, qui était un peu, en fin de compte, dans l'ordre de grandeur qui avait été présenté, à permettre aux résidents actuels possédant un réfrigérateur de conserver. Donc, on voulait, par ce document-là, faire en sorte que la direction de l'université signe cette entente-là par la direction des résidences. C'est Mme Lecaille qui aurait pu être le mandataire. Et qu'à l'encontre de céder, si vous voulez, ces privilèges-là, on accepte que la pension devienne obligatoire pour les nouveaux résidents. Ça engage à ne pas nuire au bon déroulement des travaux de rénovation. Là, moi, je vous avoue là, que c'est à lire cette entente-là, je voyais un chantage flagrant. Et j'ai cru bon rencontrer le nouveau président de l'ERCOM pour qu'on puisse discuter de ces éléments-là. Et ce que j'ai mentionné à ce moment-là, c'est que au-delà de me dire que, dans le fond, si on cédait à acheter la paix, que vous engagez à pas nuire au bon déroulement, que je ne comprenais pas et que je n'accepterais pas non plus, ni en tant que directeur des services auxiliaires, ni en tant que représentant de la direction, que l'ERCOM, dans le fond, fasse en sorte de nuire au déroulement des travaux parce que c'était pas à leur avantage comme c'était pas à notre avantage. Nous, tout ce qu'on essayait de faire, c'est de rénover ces résidences-là au meilleur coût et faire en sorte que, au-delà du meilleur coût, que ces résidences-là, dans le fond, soient des résidences qui soient accueillantes pour les étudiants et les résidents, qui soient un lieu propice à l'étude et qui, dans le fond, tiennent compte du mandat qu'on a du côté des résidents.
Pourquoi M. Duval n'a pas accepté la position à l'effet que les anciens, finalement, les résidents pourraient conserver finalement une espèce de droit acquis, là, conserver leur frigo, pouvoir utiliser leur futon dans les chambres rénovées, etc. Pourquoi finalement leur imposer de nouvelles conditions, un nouveau règlement là, qui est venu qui accompagnait l'annexe du 19 avril?
Ben, simplement parce qu'en fin de compte, du côté de la résidence ouest, si je place un miroir, je vais voir, si vous voulez, la résidence est Et c'est identique. La résidence est la résidence ouest, deux bâtisses identiques. C'est un miroir entre les deux. Et dans cette perspective-là, moi, je me disais, du côté de l'étudiant, dans le fond, qui a un privilège, qui considère qu'il y a un privilège de pouvoir utiliser un futon parce qu'il a fait l'acquisition d'un futon, il veut maintenir ce droit-là, on n'a aucun problème avec ça. La seule chose, c'est qu'on va vous le permettre dans la tour S. Puis on est prêt à vous réserver une chambre dans la tour S pour que vous puissiez continuer à avoir le même privilège. Donc, on offrait, dans le fond, une alternative qui était équivalente.
Mais pourquoi dans la tour ouest, justement, indiquer le mobilier tel quel ne pourra pas être changé, vous avez vu? C'est plus possible dans la tour ouest à partir de septembre 2000. Là.
Écoutez, on fait des rénovations majeures, on change tout le mobilier, on amène tout du mobilier neuf. Il est évident qu'avec du mobilier neuf, nécessairement, on ne pouvait pas, dans le fond, laisser un individu rappel de mobilier alors qu'on achète du mobilier neuf, alors que par le passé, on sait qu'il y avait du mobilier qui était dans un état à certains endroits que je dirais lamentable et que certains étudiants l'avaient peint par le passé, mais on savait très bien, puis c'est simplement la logique qui nous amène à ça. Quand tu fais des rénovations et que tu arrives avec de l'équipement neuf, tu n'as pas le choix que de mettre des règlements pour empêcher, en fin de compte, un individu le désir de le peinturer. Ça a été, à mon sens, une gestion très difficile les dernières années, où est-ce que, dans le fond, il y avait ce type d'intervention qui se faisait.
Qu'est-ce qui était constaté dans les années précédentes, justement, au niveau de l'aveuglement, qu'est-ce qui, à votre connaissance, qu'est-ce qu'on voyait dans les
années? Ben, simplement que si une chambre était vraiment pas en condition, la direction des résidences faisait repeindre la chambre, et la remettre en condition. Par contre, si un étudiant arrivait, puis au bout de deux semaines, il décidait qu'il le peinturait à nouveau, il peinturait de la couleur que lui, ça le convenait. Et la particularité, là, ici, là, on est avec un bail de 8 mois, mais avec aussi un pendant. Puis le pendant, il n'est pas de petite taille, là. C'est qu'un étudiant, à l'intérieur de son bail, peut quitter avec un mois d'avis. Donc, si un étudiant arrive chez nous, on vient de faire repeindre, d'abord c'est très coûteux de faire repeindre, et l'étudiant décide de le peinturer lui noir, supposons, je mets ça à l'extrême, là, il décide de peinturer sa chambre noire, et s'il nous quitte le mois après, là nous on est encore en face d'une situation où est-ce que c'est pas acceptable pour un nouveau locataire, et on doit faire repeindre. Donc ce que ça fait, c'est que ton coût d'entretien et réparation est très élevé et ça ne te permet pas, en fin de compte, de pouvoir envisager de faire de la rénovation parce que, dans le fond, tu n'es pas capable de te mettre suffisamment d'argent dans une réserve pour pouvoir le faire parce que tes coûts récurrents qui sont pratiquement quotidiens t'amènent à des dépenses farfelues.
On parle de peinture. Est-ce qu'il a été constaté également au niveau de l'ameublement certaines circonstances qui vont limiter?
Ben oui, nécessairement, parce qu'il faut comprendre qu'on est allé chercher, si vous voulez, du mobilier. On a la firme qui a été préconisée, c'est une firme qui s'appelle Folio. C'est une firme qui a fait du mobilier dans l'ensemble des universités québécoises. Je pense que, avec des exceptions près, là, c'est eux qui ont eu la plupart de tous les contrats. C'est un meuble super solide, c'est un meuble en bois, tout bois, et c'est un meuble qui est tech. Donc, dès que tu arrives avec la peinture, si tu arrives avec des interventions pour visser les crochets, poser des clous, tous ces éléments-là font une détérioration dans le fond prématurée du côté du mobilier. Et c'est pas juste que c'est pas souhaitable. Nous, on fait pas cette rénovation-là juste pour le temps que l'étudiant va être chez nous. On fait ça, si vous voulez, pour les...